BFM Bourse, on refait la séance.
Avec ce soir Pierre Bouchny pour Kepler Cheuvreux, il nous accompagne. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue. Clôture mensuelle donc à l'image de l'ensemble du mois d'avril, clôture pluvieuse sur le marché. C'est un printemps pluvieux en bourse.
Absolument.
Pas qu'en bourse d'ailleurs.
Le mois de mai sera meilleur.
On l'espère. Effectivement. Sell in May and go away, vous donnez un peu d'attention à ce genre d'adage ou sell in May and go away? Absolument. Ou pas plus, non, pas plus que ça. L'expérience montre que c'est pas si vrai, effectivement. Le mois de mai peut être tout à fait positif. On verra. En tout cas, ce soir, le marché a la dent dure. Enfin. La publication de Stellantis, elle n'est pas brillante, on est d'accord, mais c'est la publication qui marque cette séance, moins, combien là ? 10,5% et quasiment en clôture. Est-ce que, alors, question très simple, c'est quand même sévère, enfin ça semble sévère, est-ce que c'est un point d'entrée d'après vous sur Stellantis ?
Bon, on n'est pas spécialement acheteur sur les constructeurs automobiles, mais par contre, celui qu'on préfère très clairement au sein de cet univers, c'est Stellantis. Il y a beaucoup de questions et, sur ce secteur, et ce qu'appuie Stellantis, je dirais, apporte un peu d'eau au moulin à la problématique, aux questions que se posent les investisseurs, c'est-à-dire, est-ce que les volumes vont tenir et dans un environnement prix qui a des chances d'être difficile. Sur les véhicules électriques, il y aura probablement des baisses de prix importantes en 2024, ça c'est relativement certain. Et la question sur laquelle aujourd'hui les investisseurs vont commencer à se poser des questions, c'est est-ce que cette baisse de prix ne va pas toucher aussi la partie thermique des ventes des constructeurs automobiles. Et Stellantis jusqu'à maintenant à la fois a été très bon en termes de prix et a maintenu une politique prix plus agressive que celle de ses concurrents et jusqu'à maintenant était très bon en termes de gestion de ses coûts. Je dirais une des marques de fabrique de Casa Tavares, c'est de savoir gérer les coûts et d'adapter en fait sa structure de coûts à son environnement de top line. Donc nous on continue à faire confiance, même si effectivement on n'est pas acheteur de l'ensemble du secteur des constructeurs automobiles.
On continue à faire confiance, même s'il y a un énorme challenge sur les véhicules électriques. On sent que la demande ralentit. En plus, les prix des véhicules électriques ont tendance à baisser et la concurrence chinoise et l'arrivée ensuite sans doute à venir, on verra des véhicules autonomes. Tesla fait un pas important dans les véhicules autonomes, par exemple en Chine, mais pas que. Enfin, tout à l'heure, François Monnier nous disait il y a quand même un risque existentiel sur un certain nombre de constructeurs. On ne sait pas si Stellantis sera encore là dans 10 ans, nous disait-il.
Je suis peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, effectivement, le niveau actuel de rentabilité de Stellantis avec des marges à 10% qui ont été réitérées d'ailleurs par le management en termes d'objectifs pour 2024 à l'occasion de ce résultat trimestriel, n'est pas évident effectivement que dans 10 ans la profitabilité soit à ce niveau-là.
Et ça n'empêche pas Stellantis de faire partie des meilleurs comebacks dans cet univers automobile depuis maintenant quelques années. Carlos Tavares, quand même, le succès de cette stratégie, mais aujourd'hui la publication, c'est vrai, alors, déçoit fortement le marché après une incroyable hausse. Il faut aussi dire et rappeler d'où l'on vient sur Stellantis. On a eu une très très belle hausse ces derniers trimestres et ce soir moins 10,5. Alors on a eu une très belle hausse mais qui n'empêchait pas le titre de rester très très faible en valorisation. Le PE de Stellantis était à peine 3 et pourtant le titre perd 10% ce soir alors qu'on était sur un PE très très bas déjà.
Enfin. Parce que en fait le PE c'est 24-25, donc il n'y aura peut-être pas 10% de marge en 2025, il y aura probablement 10% en 2024. Maintenant si les marges doivent être divisées par deux sur le temps long, donc vous évoquez les objectifs ou la situation à 10 ans, si on revient à 5% de marge, le PE 3 devient le PE 6. Donc,
Cette question qu'on vous pose aussi, vous tous, on vous prend à témoin sur nos réseaux sociaux chaque jour, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, d'après vous, parmi les constructeurs européens qui ont, pour la plupart d'entre eux, publié aujourd'hui, lequel parviendra à préserver le mieux les tarifs de ses véhicules, face aux Chinois notamment? Est-ce que ce sera Stellantis, option 1? Est-ce que ce sera Mercedes? Autre option qu'on vous propose, Mercedes qui a communiqué en disant on ne baissera pas nos prix. Est-ce que ce sera, à vos yeux, plutôt Volkswagen ou Renault? Pourquoi pas Renault qui parviendra le mieux à préserver les tarifs, les prix de ses véhicules? Vous avez été nombreux à voter et à 46%, vous avez voté Mercedes devant Stellantis à 29%. Puis Renault arrive derrière, à 17% seulement Renault. Oui, c'est pas surprenant en l'occurrence.
C'est un peu le poids de l'histoire, c'est-à-dire qu'historiquement, la capacité des constructeurs premium a été meilleure en termes de gestion des prix, de capacité à maintenir ces prix. Et c'est pas illogique qu'on règne qu'en deuxième et quatrième, les acteurs dits du mass market, sur lesquels les pressions étaient historiquement plus fortes en termes de prix.
Stéphane Solutay nous appelle. Stellantis, Stéphane, ce soir perd plus de 10% d'un point de vue technique. Est-ce que vous voyez cette baisse amenée à se prolonger? Étienne nous le disait, sur un mois, on est sur du moins 20% désormais pour Stellantis.
C'est vrai qu'on a cassé un niveau de support très important autour des 22,50 et là, ça a démoralisé un petit peu les investisseurs avec les mauvais résultats. Donc on a ce niveau technique et psychologique hein, autour des 20 euros qu'il faudra essayer de préserver à tout prix, sous peine de poursuivre encore la baisse. Mais c'est vrai que la baisse est quand même très importante en rythme mensuel. Donc il va falloir bien entendu une phase de stabilisation. Hein, on retient pas un couteau qui tombe, hein, c'est le vieil adage. Donc il va falloir quand même une phase de stabilisation et pas revenir tout de suite sur le titre hein, qui peut encore, je pense, dégringoler.
Ce soir, le CAC 40 termine en repli de 0,9%. On abandonne les 8000 points quand même en clôture mensuelle. Une autre valeur qui a publié un autre titre, Capgemini. Les ventes baissent alors comme prévu, mais le titre perd 3,7%. Même question, Pierre. Elle est simple, elle est basique, puis c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un point d'entrée ce soir sur Capgemini?
J'aime bien effectivement Capgemini. Comme vous l'avez souligné, les chiffres du premier trimestre étaient assez en ligne avec ce qui était attendu. Ce que le marché joue sur ce secteur, et pas seulement sur Capgemini, sur le secteur des services informatiques, c'est que le point bas en termes de décroissance ou de mollesse d'activité sera touché au cours du premier semestre. Donc on y est, moins 3,5% sur le premier trimestre, avec des chiffres par zone économique qui étaient assez conformes à ce que le marché attendait. Néanmoins, moins 7% sur les US, hein, donc c'est assez significatif. Nous, sur l'ensemble de l'année, on attend une croissance proche de zéro. Donc ça veut dire quelque part que le deuxième semestre sera meilleur. Et on attend notamment une accélération à partir de la fin donc du quatrième trimestre de cette année, et on voit une croissance de 6% l'année prochaine. Donc on est dans cette feuille de route et ça nous semble effectivement une bonne opportunité.
Capgemini, Téléperformance aussi sous pression avant sa publication qui va approcher là dans quelques... C'est ce soir, non?
C'est ce soir, effectivement.
Moins 4,5% la Téléperformance ce soir en clôture. Et puis un autre titre qui a souffert, décidément les publications aujourd'hui ne sont pas du goût des marchés. Alors là, c'est vraiment fin de séance, fin avril pourri sur les publications. En tout cas, la réaction des marché, le temps aussi, effectivement. Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas vu, il pleut dehors un petit peu. Mais bon. Air France, KLM, il pleut un peu sur Air France encore, qui nous annonce une nouvelle perte d'exploitation plus lourde qu'attendue au premier trimestre. Air France KLM a ce soir perdu quasiment 4%, Pierre.
Alors Air France,
c'est une fatalité la baisse d'Air France KLM. On est sur des plus bas historiques.
Non, c'est un secteur difficile. Donc c'est un secteur qui a pas créé de valeur pour les actionnaires dans la durée. Le seul sous-segment de ce secteur qui a créé de la valeur, c'est ceux qui ont capté du trafic depuis 20 ans, c'est-à-dire les sociétés, les airlines low cost, c'est-à-dire EasyJet et Ryanair, mais ce qu'on appelle les sociétés legacy, c'est-à-dire Air France, KLM ou IAG, ce sont des sociétés qui ont plutôt détruit de la valeur pour les actionnaires. Donc
effectivement, ils sont malheureux, les actionnaires.
Non, sur ce trimestre, en fait, il manquait à peu près une cinquantaine de millions sur le résultat opérationnel. Alors, le premier trimestre est structurellement en perte. Hein. C'est-à-dire qu'Air France n'est pas revenu en perte avec un chiffre négatif de près de 500 millions sur le premier trimestre. On attend des bénéfices sur l'ensemble de l'année. Néanmoins, sur ce premier trimestre, il y avait une croissance qui était en ligne avec ce qui était attendu, à peu près 5%. Les capacités, ce qui est assez regardé par le marché, étaient en ligne avec le trafic, donc il n'y a pas de risque de pincement de marge. Par contre, il y avait une croissance de 12% des salaires, de la masse salariale. Le groupe a dit que c'était pour partie des éléments non récurrents, donc on verra si c'est effectivement le cas sur les trimestres à venir. Maintenant, je pense que dans un contexte où la demande va être un peu forte avec les Jeux Olympiques, il y a un rapport de force entre la direction et les employés qui n'est pas forcément à l'avantage de la direction.
Donc les Jeux Olympiques, pas forcément une bonne nouvelle pour Air France KLM. C'est bon pour le trafic, mais en même temps, il y a des pressions salariales qui...
Il y aura aussi un petit peu moins de trafic sur le business, probablement. Enfin, ce qu'a dit le management d'Air France KLM, c'est qu'il ne voyait pas d'effet, en fait, des Jeux Olympiques. Ce serait relativement neutre. Entre les plus, effectivement, de la croissance sur les 4, 5, 6 semaines des Jeux qui sera favorable. Ils ne vont pas mettre de capacité en plus. Donc, ça sera une croissance de taux d'occupation et probablement de prix. Mais par contre, ils prendront un petit peu de trafic sur le reste du business et notamment sur la clientèle affaire qui est la plus rentable.
Puisqu'on parle des Jeux Olympiques, un petit mot aussi d'Adidas qui a publié ses résultats. Alors l'Amérique du Nord encore en surstock, c'est un vrai souci pour Adidas. En revanche, ça va mieux en Europe et en Chine. Et puis il y a la perspective non seulement des Jeux Olympiques, mais aussi de l'Euro en Allemagne dans quelques semaines maintenant. Adidas.
Alors Adidas, vous savez qu'il y a eu une problématique avec Yeezy, cette société qui a dû être arrêtée donc, suite aux propos de son inspirateur Kanye West. Et donc Adidas s'est retrouvé avec plus d'un milliard de stocks à écouler sur l'Amérique du Nord.
Ils y arrivent peu à peu.
On regarde beaucoup en fait l'évolution des stocks, donc c'est moins 1 milliard sur un an, moins 100 millions sur le trimestre, donc ça va dans le bon sens. Et effectivement, sur les zones où ça va bien, c'est-à-dire l'Europe plus 13% et la Chine plus 8%, l'Europe ça doit être à peu près la moitié du chiffre d'affaires et la Chine une quinzaine de pourcents, ça va plutôt bien. Et il reste les US où on est à moins 7 ou moins 8 je crois.
Merci beaucoup. Pierre Bouchny nous accompagnait pour Kepler Chevreux ce soir.